Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
À voix nue, Caroline Brouet, Sylvie Berman, ambassadrice de France. Troisième épisode, Le monde russe, de Gorbatchev à Poutine. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour Caroline Brouet.
On change de pays, on passe en Russie, un peu d'ailleurs comme la Chine. Vous avez connu la Russie à deux époques et vous avez été témoin de son évolution sur 40 ans. La première fois, vous y arrivez en mai 86, donc c'était même pas la Russie, c'était encore l'Union soviétique. On était encore du temps du RSS. Mai 86, mai 89, on est du temps de l'Union soviétique, mais période de Mikhail Gorbatchev, c'est-à-dire la glasnost, la perestroïka. Le chef du Kremlin a choisi la transparence et un peu d'ouverture dans le monde soviétique. Vous arrivez 3 semaines après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et vous dites dans vos mémoires que la première chose qui vous frappe, vous arrivez donc de Chine, la première chose qui vous frappe, c'est le gris du monde dans lequel vous débarquez.
Oui, tout à fait, parce que la Chine était un monde qui restait coloré. On parlait des fourmis bleues, mais il y avait les foulards rouges, il y avait un ciel très 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 bleu à l'époque. C'était évidemment avant la pollution, et il y avait tous ces marchés aussi dans les années 80 où les paysans vendaient librement leurs produits. Et Moscou, c'était un monde gris, tout était gris, les rues, les bâtiments, les gens. Ils avaient même la peau grise parce qu'ils étaient très mal alimentés, puis qu'il y avait très peu de soleil. Enfin, tout était gris, oui, les vêtements, absolument tout. Oui, ça a été un contraste assez saisissant. C'était un monde plus dur que la Chine.
Et puis vous dites que finalement, vous arriviez d'un monde communiste, vous entriez dans un autre monde communiste, mais que vous avez pris conscience que le communisme pouvait avoir des différences de nature.
Parce que quand j'ai quitté la Chine s'ouvrait et était plus libérale. J'ai connu ça en Union soviétique aussi, mais en réalité, c'est un peu Tchernobyl qui a été le point de rupture. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la transparence et que ça a vraiment changé. Donc à mon arrivée, c'était pas encore sensible, cette évolution avec Gorbatchev, même s'il était là déjà depuis un an.
Et vous diriez par exemple que pour le dire très schématiquement, mais que la Chine avait choisi la voie économique de la libéralisation,
oui.
Là où l'URSS à l'époque choisissait plutôt la voie politique, la réforme politique.
Oui, les Chinois avaient été en fait plus pragmatiques et donc ils avaient conforté l'économie d'abord, alors que les Russes, sur le plan économique, ont eu beaucoup de mal parce qu'ils avaient une mentalité complètement soviétique. Et même quand il y a eu un début de liberté avec les coopératives, ils n'ont pas tout de suite voulu créer quelque chose, ils conservaient cet esprit très très communiste. Il y a un exemple que je donne, c'est-à-dire quand vous alliez dans un restaurant, il fallait réserver 24 heures à l'avance, vous tombiez dans des salles désertes, et d'ailleurs il n'y avait qu'un plat qui était disponible sur toute la liste. Eh bien, quand il y a eu des restaurants privés, eh bien au début, ils ont procédé de la même manière, c'est-à-dire vous arriviez et ils vous répondaient, il n'y a pas de place, alors que la salle était vide. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de travailler, comme les Chinois avant. Alors dès qu'il y avait un intérêt pécuniaire, bien évidemment, il travaillait. Donc c'est ça aussi qui m'avait frappé, c'est ces résistances à la réforme économique. Et d'ailleurs, bon, le pays était pauvre et il s'est un peu écroulé à cause de ça. Et les Chinois ont été très critiques hein, de la réforme soviétique qui a abouti aussi à l'explosion du parti et du pays. Et un jour, alors des années plus tard, quand je suis retournée en Russie en tant qu'ambassadeur, j'ai vu un homme d'affaires assez opulent, et il me dit « Ah, mais l'Union soviétique, c'était pas si mal que ça ». Et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous feriez si l'Union soviétique avait été maintenue ?» Et il m'a dit « Les Chinois ont été plus malins que nous, ils ont gardé le Parti communiste et ils ont ouvert le pays au capitalisme ». Et en fait, c'est parfois une nostalgie des Russes, c'est-à-dire d'un pouvoir fort et en même temps de la liberté économique. Donc c'est deux pays qui ont évolué de manière totalement différente. Et quand je parlais de la révolution culturelle, de la fermeture pendant 10 ans des lycées, des universités, ça n'a pas empêché les Chinois d'être les premiers dans le domaine des hautes technologies, de l'informatique, avec Huawei par exemple, alors que les Russes ont beaucoup de mal à modifier leur système économique, à faire les réformes nécessaires. Ils avaient les plus grands mathématiciens, les plus grands ingénieurs. Ils avaient un excellent enseignement du temps de l'Union soviétique. Donc pour moi, ça a été... Mais là, on va un peu trop vite puisque c'est la période où j'étais ambassadeur.
C'est la deuxième période.
C'est la deuxième période. Et je vivais donc, quand j'étais en Union soviétique, la fin d'une période. Hein. Un jour, un Chinois, vous savez, on parle de la culture des arrière-cuisines. Parce que c'est là que les gens parlent librement, expriment leurs frustrations. Et un jour, il y en a un qui dit finalement, le communisme aura peut-être été l'aventure du XXe siècle. Et à l'époque, ça nous paraissait impossible. Le régime semblait pouvoir durer. Gorbatchev voulait le réformer, pas le supprimer. Mais donc là aussi, période où les gens parlaient beaucoup, réfléchissaient, exprimaient des désirs. C'est une période très forte, la perestroïka, et plus tard... Des Russes, quand j'étais à New York, par exemple, m'ont dit « Ah, vous avez de la chance, c'était la meilleure période ». Tout le monde ne le partage pas. Hein.
Justement, remettons-nous dans l'époque, donc au milieu des années 80, Gorbatchev, il est adulé par les Occidentaux. Vous dites, et on l'a bien vu, que en tous les cas, aujourd'hui, 2024, les années 2020, il est détesté, il est honni par son pays, par son peuple, aujourd'hui. À l'époque, comment le peuple russe regardait Gorbatchev ?
Déjà, en dehors de l'establishment, si je puis m'exprimer ainsi, qui le suivait et qui était enthousiasmé par ses réformes, il y a eu énormément de résistances, des résistances au sein du parti, des résistances dans la population. Et en fait, déjà, il était détesté, c'est-à-dire que l'adulation en Occident ne correspondait absolument pas à la perception des soviétiques à l'époque. Et il détestait en particulier Raïssa, sa femme, parce qu'elle était trop élégante, trop mince, avait des bijoux, alors que les femmes russes avaient peu de possibilités de s'habiller ou d'avoir une nourriture saine. Donc on a toujours senti cela, il y a toujours eu cette dichotomie entre les intellectuels, les journalistes qui ont adoré Gorbatchev parce qu'il leur a donné la liberté, et puis les autres parce que la vie était très dure. Les magasins étaient complètement vides. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a adopté ce qu'on a appelé la loi sèche, parce que l'alcoolisme est un véritable fléau en Russie. Hein, quand ils n'ont pas de vodka, ils vont jusqu'à utiliser de l'essence, n'importe quoi, et beaucoup de morts de cette manière-là. Gorbatchev a voulu lutter contre cela. Or, dans une Union soviétique qui restait très frustrée, la consommation d'alcool était une forme de compensation, de consolation, et c'est très très mal passé, ça l'a rendu très impopulaire.
Vous étiez, en arrivant en 1986, première secrétaire à l'ambassade de France à Moscou, vous aviez pris du galon par rapport à la Chine. En tant que première secrétaire à l'ambassade de France, je suppose que vous aviez eu l'occasion de rencontrer le chef du Kremlin, Mikhail Gorbatchev. Quel homme était-il ? Comment le regardiez-vous, vous ? Et d'ailleurs, de quoi parliez-vous, si vous pouviez nous en dire quelques mots ?
Écoutez, vous allez être un peu déçus, parce que je n'étais que première secrétaire. Et c'est les ambassadeurs qui rencontrent les chefs d'État. Donc moi, Gorbatchev, je l'ai rencontré des années après, quand à la tête de sa fondation, quand j'étais ambassadeur. À cette époque-là, je ne l'ai pas rencontré directement. Il avait ce côté fascinant parce que c'était un grand orateur également. Et en fait, comme les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, sont toujours fascinés par les Américains. Et donc, toutes les initiatives nouvelles de Gorbatchev en termes de désarmement ou autre étaient publiées pour les journaux du week-end américain. Ce qui fait que vers la fin de la semaine, on avait beaucoup plus de travail et que l'agent de permanence devait rendre compte de tous les discours et de toutes les nouvelles propositions de Mikhail Gorbatchev.
Quand vous êtes partie, Sylvie Berman, en mai 1989, vous voyiez déjà l'émergence de Boris Yeltsin, exact opposé de Gorbatchev, et lui très populaire.
Alors Boris Yeltsin était très populaire. Moi, je me souviens, j'avais une femme de ménage russe que j'avais choisi moi-même, parce que la première avait été choisie par le bureau des services, qui est une émanation du KGB, avec qui je m'entendais très très bien, et elle me disait qu'elle m'interrogeait justement sur la politique, sur ce que je pensais de Yeltsin, en me disant, mais c'est la première fois qu'on a envie de voter, c'était les élections à Moscou, et il a suscité beaucoup beaucoup d'espoir, et je me souviens un jour dans un théâtre où il a fait une apparition sur surprise, les acteurs se sont arrêtés de jouer, l'ont invité à monter sur scène, à faire un discours, il a été ovationné. Donc au début, il a suscité énormément d'espoir parce que lui voulait la fin du communisme, lui était critique du système lui-même.
Est-ce que vous étiez ému de venir dans ce pays, qui était le pays de votre grand-mère, Mina? On disait que la Chine avait été le fil rouge, mais au départ, au tout départ, vous nous avez dit dans la première émission que vous aviez été fasciné d'abord par la Russie, avec le général Dorakine, et puis les récits de votre grand-mère. Est-ce que vous avez pu parler avec elle de cette expérience-là?
Malheureusement, non, et c'est mon grand regret, parce qu'elle est morte 10 mois avant mon départ pour Moscou. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, et puis c'était peut-être la possibilité de retrouver des personnes de la famille. Mais je me souviens qu'un jour, dans un marché kolkhozien, j'ai eu ce sentiment très fort de... Enfin, j'ai pensé très fort à ce que pouvait représenter l'exil pour des gens qui quittent une culture, qui quittent leur famille, qui quittent tous leurs points de repère. Et ça, c'est parce que j'avais lu les mémoires de Galina Vishnevskaya, qui est la femme de Rostropovitch, qui racontait à un moment, je crois, que son mari, qui avait été banni à cause des contacts avec Sakharov à l'époque, avait voulu remporter du marché kolkhozien, du miel en rayon, du fromage blanc, et que ça lui a été interdit. Moi, j'achetais toujours ça quand j'allais dans ces marché, puisque les magasins étaient vides. Et je me suis dit, l'exil, c'est aussi renoncer au goût de l'enfance et renoncer à absolument tout. Et donc, j'ai beaucoup pensé, je me souviens un jour, un peu comme un flash, hein, à ce que pouvait représenter l'exil pour une famille, et dont finalement, la première génération ne s'intégrera jamais à 100%, ne parlera jamais parfaitement la langue, et même s'ils essaient de conserver certaines traditions. Parce que si ma grand-mère parlait français comme une Française, mon arrière-grand-mère, qui est morte à 92 ans, donc moi j'avais 15 ans, donc je l'ai bien connue, elle parlait à peine le français.
Et que gardez-vous de ce premier séjour fin des années 80? Est-ce que, vous, par exemple, vous avez le sentiment d'avoir vécu une époque historique? C'était quand même le début de la fin de la guerre froide. Est-ce que c'est ça qui reste? Est-ce que c'est l'époque des grandes espérances, par exemple? On refaisait le monde dans l'arrière-cuisine, puis dans la cuisine. Est-ce que c'est ça qui reste? Ou est-ce que ça, ce serait trompeur?
Non, c'est ça qui reste, bien sûr, c'est-à-dire la fin d'un monde, l'espoir d'un nouveau monde également, bon, qui a été déçu quand, avec le recul, bien sûr, mais à l'époque, oui, le sentiment que tout était possible. Et puis, il y a eu, j'étais là-bas au moment de la libération de Sakharov, qui a été aussi un
prix Nobel de la paix,
1986. Donc, oui, c'était ce sentiment d'avoir vécu une période historique. Et c'est vrai qu'en y retournant et en ayant ces deux images différentes dont vous parlez du gris, quand je suis au contraire retournée en Russie, ce qui m'a frappée, c'est que le film était devenu en couleur.
Et vous y retournez donc 30 ans plus tard. Quand vous revenez en Russie, Sylvie Berman, c'est comme ambassadrice de France en 2017. Et effectivement, la Russie a complètement changé de visage, de président. C'est Vladimir Poutine qui est le président. À part un pays beaucoup plus en couleur, est-ce que vous reconnaissez le pays dans lequel vous retournez ?
Oui, parce que évidemment, il y a des traditions qui sont fortes. Et puis également, même si ce n'était plus le communisme, en réalité, une forme de bureaucratie avait complètement survécu. C'est-à-dire, en dehors de la société civile, qui était beaucoup plus normale, ben vous aviez un système qui restait un système rigide. Et puis, par ailleurs, ben le KGB avait éclaté en deux sections, FSB, SVR, un service extérieur, un service intérieur. Mais le FSB était toujours très présent. On parle des siloviki en russe, ça remonte à l'Oprichnina d'Ivan le Terrible. C'est une constante de la vie en Russie sous les tsars et sous l'Union soviétique. Donc ça, effectivement, on le retrouvait. Voilà, non, c'est à la fois pas le même pays et le même pays. Moi, je me souviens, enfin, c'était assez amusant parce que vous aviez les cosmonautes qui allait sur la station spatiale et puis il y en a un qui était héros de l'Union soviétique et il a quitté l'Union soviétique et il est revenu en Russie, ce qui pour lui était encore plus frappant et est devenu héros de la Russie après. Mais c'était sur le plan de l'imaginaire, c'est très fort. Mais à part ça, bon, on avait les contacts avec qui on voulait, avait une vie culturelle intense. Et puis là aussi, les relations entre la France et la Russie étaient finalement plutôt bonnes. On connaît l'épisode maintenant, puisque Emmanuel Macron avait condamné les ingérences de la Russie dans les élections, mais en même temps, il a développé des relations pragmatiques avec Vladimir Poutine. Quand j'étais, il est allé trois fois en Russie, il a reçu Poutine à Brégançon, j'étais présente, et je ne pense pas qu'à cette époque-là, il était dans une logique de guerre.
Poutine.
C'était Poutine. C'était un régime qui était un régime effectivement autoritaire. Hein. J'ai assisté aux élections de 2018 et à ce moment-là, bah, d'abord, ça a été des élections entièrement contrôlées par les observateurs de l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. Alors, bien sûr, il avait déjà fait arrêter Navalny pour quelques semaines sous je ne sais quel prétexte.
C'était très populaire. Et notamment auprès des jeunes.
Qui était populaire auprès des jeunes, très populaire, non.
Bon, mais
non, parce que, vous avez les jeunes, ils étaient présents dans une quarantaine de villes, ils dénonçaient la corruption, mais vous avez une certaine génération de Russes qui ne l'approuvaient pas. Mais en tout cas, comme il avait gagné 27% des voix en 2013, pour les élections, qu'il avait organisé des mouvements de rue, effectivement, Poutine ne voulait pas courir de risque. Bon, il aurait été élu de toute façon. Mais en dehors de ça, les élections s'étaient passées à peu près normalement. Donc,
entre ces élections de 2018, donc, et cette rencontre en tête-à-tête au fort de Brégançon en 2019 que vous évoquez, où vous dites que Poutine n'était pas dans une logique de guerre. Vous faites partie de celles et de ceux, Sylvie Berman, qui pensent que Vladimir Poutine a changé en 2019 ou de celles et ceux qui pensent que pas du tout, en fait, on s'est complètement trompé parce que depuis 2008, il avait un plan, une vision, on peut lire des textes, on peut écouter des discours où il disait déjà, en particulier sur l'Ukraine, mais qu'il voulait restaurer l'Empire russe et que c'était très clair, en fait.
Alors, il avait effectivement une obsession qui était de restaurer le rang de la Russie. Et le rang de la Russie, bah, dans son esprit, ça devait effectivement passer par l'Ukraine, qui a été considérée comme une véritable amputation. Vladimir Poutine ne parle pas de l'Union soviétique. Il détestait l'Union soviétique et le communisme, mais ce qui respecte c'est la puissance de l'Union soviétique, c'est le fait que l'Union soviétique était crainte et était à parité avec les États-Unis. Quand il parlait de sujets de désaccord avec Emmanuel Macron, quand il parlait par exemple de la Syrie, qui a été un sujet très important à l'époque, très stratégique, il était sur un ton totalement neutre. Dès qu'il parlait de l'Ukraine, ça devenait plus émotionnel. Donc effectivement, je pense que ça n'a jamais été digéré, cette amputation-là. En même temps, moi, ce que je me disais à l'époque où j'y étais, c'est que les années passaient, les générations suivantes, c'était déjà 30 ans d'indépendance de l'Ukraine, les générations suivantes s'habitueraient puisque l'Ukraine n'avait jamais fait partie de la Russie. Et puis est intervenu le Covid là-dessus, et je pense que Poutine s'est enfermé physiquement, psychologiquement, et a commencé à ressasser cette idée et s'est dit sans doute que le moment était venu, d'autant plus que les Américains avaient piteusement quitté l'Afghanistan et annoncé qu'ils ne s'engageraient plus dans des actions extérieures. Donc il y a tout un tas d'éléments qui ont fait que Poutine, encouragé par le FSB, parce qu'il rencontrait personne d'autre en réalité, il avait quelques contacts parmi les libéraux, il a cessé de les voir, et puis même les hommes d'affaires, les oligarques, parce que ils étaient obligés de s'isoler pendant 15 jours, ce qui n'est pas possible pour un patron d'entreprise, et ensuite hurler donc au fond d'une pièce. Donc je pense qui, c'est un homme qui était de toute façon autoritaire.
Oui, vous dites que vous êtes arrivé en plein centenaire de la révolution d'octobre 17 et qu'à ce moment-là, déjà, Poutine commençait à déboulonner Lénine au profit de Staline. Et on sait bien qu'il a une politique de révision de l'histoire, par exemple. Ou même la militarisation en cours de la société. Vous avez assisté à ça aussi, quand même.
Oui, et complètement, mais avec encore des ambiguïtés. Parce que, par exemple, quand le mur du chagrin qui est dédié aux victimes du Staline a été inauguré, il l'a inauguré avec le directeur de Mémorial et en disant que justement les crimes du stalinisme avaient été une honte, pazor.
Mémorial, l'association de mémoire de ces crimes et qu'il a fait fermer.
Voilà, donc il y avait encore une forme d'ambiguïté qui, aujourd'hui a disparu parce que pour lui, Staline, c'est le tsar rouge, mais c'est lui qui est victorieux parce que il a remporté la victoire pendant la Grande Guerre patriotique, puisqu'on ne parle pas de Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a eu une nouvelle frustration de Poutine qui voulait organiser en 2020 la parade de la victoire donc sur le nazisme le 9 mai. C'était le 75e anniversaire. Il avait invité Merkel, Trump, Macron, Xi Jinping, etc. Donc pour lui, c'était un peu le retour vraiment de la Russie au sein des grandes puissances. Et évidemment, avec le Covid, il n'a pas pu organiser tout cela. D'ailleurs, si la vie diplomatique avait pu se continuer, il n'aurait pas eu le temps de concevoir ça ou de le monter. Peut-être qu'il l'aurait toujours plus ou moins eu en tête, mais là il a eu effectivement les mains libres. Et quand Emmanuel Macron l'a rencontré à Moscou, la grande table restera dans les annales, il a dit lui-même en rentrant, le Poutine que j'ai vu cette fois-ci n'est pas le Poutine que j'ai connu auparavant. Et moi, j'ai eu, alors je n'y étais pas, mais j'ai vu toutes ces images et c'était effectivement choquant, le ton qu'il employait, espèce de...
Vous aussi avez constaté un changement.
Oui, tout à fait. Sans dire que c'était avant un grand démocrate, sans illusion, mais je pense qu'il y a eu une dérive.
Ce que vous ressentez de, et ce que vous ressentiez entre 2017 et 2019, date à auquel vous étiez ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman, c'est un attachement à cet empire russe ou un reste d'homo soviéticus? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez là-bas?
Ah, effectivement, la rémanence de l'homo soviéticus est très, très forte dans la génération de Vladimir Poutine et en tout cas les générations qui ont 60, 70 ou plus. Parce que c'était la grandeur du pays, un pays qui était respecté. C'est-à-dire, on parle d'humiliation de la Russie, ce qu'on nie toujours, mais les Russes ont quand même ressenti cela. Et si vous lisez Svetlana Alexeyevitch, qui a été prix Nobel...
Notamment La fin de l'homme rouge.
La fin de l'homme rouge, qui est un livre extraordinaire pour comprendre la Russie, y compris la Russie d'aujourd'hui, même si c'est des interviews qui, je crois, ont été réalisées dans les années 90. Beaucoup lui disaient... Nous étions un grand pays. Et donc, c'est une frustration. Il y a eu une amputation très, très forte. Et puis, le pays n'est pas respecté comme il l'était autrefois, même si l'Union soviétique était un colosse au pied d'argile et que, bien évidemment, le système ne favorisait pas tout le monde. Mais il y avait une forme de pauvreté généralisée, alors qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment d'une injustice avec des très grandes richesses. Donc, en fait, il y a quand même ce sentiment d'avoir appartenu à un grand pays et donc d'une perte. C'est quelque chose qui est réel.
Churchill disait à propos de la Russie que c'était un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Est-ce que vous, Sylvie Berman, au bout du compte, vous pensez avoir réussi à percer le mystère de l'âme russe dont, d'une certaine façon, vous êtes un peu dépositaire par votre grand-mère?
Oui, c'est effectivement le titre d'un de mes chapitres. Et puis c'est... l'âme russe, c'est aussi un petit peu un mythe, mais c'est vrai que ce qui est très difficile, et quelqu'un a dit ça un jour, je ne sais plus qui, et qui est intéressant, en disant le problème avec les Russes, c'est que ce sont des Blancs. C'est-à-dire que quand vous essayez de comprendre les Chinois, vous savez qu'ils sont très différents, que c'est une autre culture. Les Russes, on pense que c'est des Européens comme nous. Et ils sont pas 100% européens. Bon, c'est la géographie, c'est l'histoire, le joug mongol, et donc c'est extrêmement difficile. Mais ce que je retrouve dans les Russes aujourd'hui, c'est Tchekhov, Tolstoï, le Gontcharov, l'oblomovisme. L'oblomovisme, c'est une forme de comportement velléitaire, c'est-à-dire que vous rêvez d'une vie meilleure comme tous les héros de Tchekhov, mais vous ne faites rien pour que ça change. Et ça, je trouve qu'on le retrouve assez souvent chez les Russes.
Il y a toute la culture russe, les maisons d'écrivains que vous avez visitées, les rencontres extrêmement nombreuses que vous avez faites en tant qu'ambassadeur quand vous y étiez, les voyages aussi à travers le pays. Mais vous avez quitté la Russie en emportant quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Vous avez emmené une petite chatte sibérienne, Pushinka. Pushinka, en plus, elle a un nom qui n'est pas n'importe quel nom, puisque c'est le nom de la chienne offerte par Nikita Khrouchtchev à John Kennedy. Elle est encore avec vous?
Oui, alors Pushinka, moi, je ne sais pas pour cette raison-là. J'ai découvert après seulement qu'effectivement, c'était le nom de cette chienne. Ça veut dire duvet, duveteuse, parce que les chats sibériens, bon, évidemment, ont une très, très belle fourrure pour se préserver du froid. Et je trouvais que c'était un nom assez mignon. J'aime beaucoup cette chatte, aussi parce que c'est un souvenir de Russie. Elle est d'ailleurs là, elle est en train de passer son nez. Je ne sais pas si elle a entendu son nom.
Elle est là, exactement. Elle a compris qu'on arrivait au terme de cette émission et qu'on parlait d'elle. Merci beaucoup à vous, Sylvie Berman. On se retrouve pour l'épisode 4 aux premières loges du Brexit. À demain.
Merci beaucoup, à demain.
C'était À Voix Nue avec Sylvie Berman. Réalisation Angélique Thibault, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.